En guise d'introduction, alors mondialisation, je suppose qu'avec mes collègues en histoire géo, vous avez déjà abordé les définitions multiples de ce terme, et vous avez sans doute abordé aussi, je dirais, les origines de ce terme. Vous savez tous et toutes, donc, c'est un mondialisation vient d'un mot anglais, globalization, qui est en fait un terme américain inventé par des économistes pour définir, je dirais, un phénomène de développement d'entreprises dans le monde, lesquelles entreprises devaient vendre des produits standardisés, tous les mêmes, dans tous les pays du monde. Au départ, c'est en quelque sorte une forme de standardisation d'un développement industriel et commercial à l'échelle du monde. Ça, c'est les premières définitions développées par Lewitt en particulier dans les années 80. Et puis, le terme de mondialisation a évolué. Il est devenu, on a parlé de village planétaire, donc on a parlé de mondialisation à l'occasion du développement d'un monde, de l'apparition d'un monde où il n'y aurait plus de frontières, où les frontières auraient disparu totalement. Et ça, c'était plutôt dans les années 90. Et à l'occasion de ce développement dans les années 90 du village planétaire, du monde sans frontières, de plus en plus, on est entré dans une perspective de définition qui était associée à mondialisation et système. Un système monde dans lequel tous les acteurs, les États, mais aussi les entreprises et les particuliers jusqu'à cette échelle-là, étaient tous participants de la construction d'un monde qui est le monde actuel. Alors, je ne reviendrai pas donc sur tous ces aspects de la mondialisation, sauf si vous voulez me poser quelques questions, si on veut en débattre ensemble. Ce qui m'intéresserait quand même de rappeler, c'est qu'en géographie, pour ce qui nous concerne, la mondialisation, c'est d'abord un phénomène spatial, donc il y a un rattachement à la spatialité qui m'intéresse à travers ce phénomène de mondialisation, et puis d'autre part, on le verra aussi, il y a un rattachement à un autre aspect qui nous intéresse, nous géographes, la temporalité. Donc spatialité et temporalité sont des thèmes extrêmement intéressants dans la mondialisation et dans les relations entre Europe et mondialisation telles que je vais vous en parler maintenant. Alors, ce que je retiendrai moi en tant que géographe dans la mondialisation, c'est à la fois l'idée, vous en avez sans doute perçu les éléments, à la fois l'idée d'un monde bouclé, d'un monde fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui, tous les habitants du monde ont potentiellement la possibilité de se déplacer dans le monde entier. Ça, c'est donc un monde bouclé. On a tous, potentiellement, je ne dis pas que tous vont réaliser ce voyage, mais tous, on a la possibilité de se déplacer dans le monde entier parce que les moyens de communication, parce que les moyens de transport nous permettent de se déplacer. Donc, il y a d'abord cette idée de bouclage, de finitude du monde. Tu vois, ça nous permet de penser aussi que le monde est petit et que toutes les frontières sont peut-être, largement dépassées, mais il en reste une qui est indépassable, c'est la frontière de l'atmosphère, et au-delà de l'atmosphère, ce sera bien difficile d'aller. Alors peut-être qu'au XXIe siècle, au XXIIe siècle, on trouvera des solutions pour dépasser de plus en plus cette frontière du monde tel qu'il est. Et puis, l'autre idée, c'est la totalité, donc bouclage, finitude et totalité. C'est-à-dire que toutes les facettes de notre vie sont concernées par la mondialisation. Aucune n'échappe aujourd'hui à la mondialisation. Par conséquent, vous voyez, ça, ce sont des éléments qui me semblent plus importants en géographie et en histoire à rappeler que simplement une perspective strictement économique. Alors, pour en arriver au sujet, l'Europe et la mondialisation, je dirais qu'il y a un premier point que je vais voir avec vous, il ne faut pas oublier, c'est que l'Europe a créé la mondialisation. L'Europe a inventé la mondialisation. À une époque où, il était sans doute plus facile de dominer le monde pour l'Europe que, la situation actuelle. Et puis d'autre part, un deuxième volet par contre, c'est que aujourd'hui, à l'inverse, l'Union européenne a un projet de construction spatiale, économique, politique, qui est, qui s'oppose pas, mais qui fait face à la mondialisation. Donc deux périodes. Une première période où l'Europe invente la mondialisation, invente le monde, je vais vous montrer comment, et puis une deuxième période où, au contraire, l'Europe se construit en faisant face à ce monde, à cette mondialisation qui la transforme elle-même, qui modifie le projet, voire qui le remet en cause. Voilà les deux perspectives. Ah bon, alors donc je vais pouvoir. Est-ce que je peux passer à chaque fois en cliquant sur le droit, c'est bon ? Non. Voilà. Il faut cliquer donc à gauche.
À droite.
À droite ? Ok. Alors. Ah, c'est gauche. Ok. Alors donc premier point, l'invention et la domination du monde par les Européens. Il y a eu un monde avant le monde actuel, ou plus précisément, il y a des mondes avant le monde actuel. En fait, je dirais que les premières images du monde, vous voyez, que ça remet en cause un peu cette vision d'une mondialisation récente, rapide, telle qu'on peut nous l'évoquer encore aujourd'hui. Il y a eu de premières images du monde qui remontent à l'Antiquité, et qui pour moi correspondent à une première appropriation, donc une première forme de mondialisation, en quelque sorte. Alors, premières images du monde, ce sont celles que les cartographes, géographes grecs de l'Antiquité, commencent à penser, à imaginer, plus qu'à ne comprendre, parce que de toute façon, ils n'avaient aucun moyen de voir le monde dans sa réalité, mais ils le pensaient, ils l'imaginaient, et comment l'imaginent-ils et comment le pensent-ils? Ils le pensent comme un disque terrestre, comme un disque, donc un cercle, avec un trait circulaire bien fini, et une image de cercle qui est très rassurante quand on se trouve à l'intérieur, qui est une image très, comment dire, sécurisante, le cercle étant la figure parfaite. De ce point de vue. Et donc, les Grecs imaginent dans ce cercle parfait qui est le disque terrestre pour eux, eh bien, ils imaginent un partage en continents et un savant comme Strabon, qui est un auteur, un grand cartographe grec de l'Antiquité, eh bien, représente le monde avec trois continents, Asie, Europe et Afrique. C'est comme ça qu'on commence à penser le monde, avec trois continents. Cette idée de trois continents, du reste, sera, largement reprise et poursuivie avec des explications différentes au Moyen-Âge et à la Renaissance, on le verra tout à l'heure. Alors, l'un des premiers modèles qui est dans la continuité de la pensée grecque, eh bien, c'est ce modèle-là, vous l'avez sans doute tous et toutes vu, hein. C'est ce qu'on appelle le modèle Théo, c'est-à-dire la carte en Théo, qui s'inscrit bien dans la pensée grecque de l'Antiquité, mais reprise au Moyen-Âge, avec un cercle parfait, entouré d'eau, alors là c'est la partie mystérieuse de ce monde imaginé par les Grecs et pensé au Moyen-Âge, on ne sait pas ce qu'il y a aux confins de ce cercle, on imagine donc un cercle, un disque qui serait bordé d'un océan mystérieux, vous le voyez en bleu, et puis vous voyez pourquoi le modèle en Théo, eh bien avec, trois continents séparés par la Méditerranée, entre Europe et Afrique, et puis entre Asie et Europe, eh bien, un fleuve qui s'appelle aujourd'hui le Don, et entre Asie et Afrique, un fleuve qui est le Nil. Donc c'est au Moyen-Âge la pensée des Grecs transcrite dans une position, dans une hypothèse beaucoup plus chrétienne à cette époque. On peut revenir peut-être à la diapo d'avant, s'il vous plaît. C'est pas possible, ça fait rien. Alors, voilà. Alors, il y a de ce point de vue dans la pensée qui évolue de l'Antiquité au Moyen-Âge, et surtout qui se développe à l'époque moderne, eh bien, ce que j'appelle une première étape de la mondialisation. Donc je vais faire figurer la première étape de la mondialisation à la fin du XVe siècle. Pour moi, c'est la fin du XVe siècle qui marque la première étape. Et cette première étape, comme toutes les étapes de la mondialisation, est marquée par la création de frontières. À chaque fois qu'il y a une grande étape de mondialisation, il y a création de très grandes frontières, de frontières qui partagent le monde. Cette première étape est tout à fait caractéristique, puisqu'il s'agit, à la suite de la découverte des voyages de grande découverte des Espagnols et des Portugais à la fin du XVe, il s'agit du partage du monde entre Espagnols et Portugais à cette époque. Alors, j'ai marqué pour mémoire, vous les connaissez sans aucun doute, les traités qui permettent ce partage du monde, Tordesillas 1494 et Saragosse 1529. Eh bien, lors de ces deux traités, le monde est partagé entre un empire espagnol considérable et un empire portugais tout aussi vaste. Voilà, peut-être qu'on peut revenir à la diapo suivante encore, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce partage est représenté sur cette carte, alors qui peut vous sembler complètement extraordinaire et qui peut-être ferait frémir, je ne sais pas, des collègues correcteurs de géographie à l'épreuve du bac. Alors, sur la forme, d'abord, vous voyez que sur la forme, c'est une carte qui est coloriée au crayon de couleur de façon assez simple, peut-être même simpliste hein, dans le crayonnage. Peut-être qu'on pourrait penser que c'est une carte qui est d'un élève de 6e qui ne sait pas tellement bien colorier. Mais c'est pas le problème, ça. Je crois que le fond de la carte est bien plus important que la forme de ce point de vue-là. Sur le fond, vous voyez une représentation du monde que vous n'avez peut-être jamais vue non plus. C'est d'ailleurs une espèce de projection, polaire du globe terrestre sur un plan. Autrement dit, il faut penser projection polaire, le plan sur lequel vous devez représenter la carte, un plan en papier ou en carton, peu importe, qui serait tangent au pôle, et tangent au pôle nord. Et donc, une projection polaire un petit peu déformée, même très largement déformée, qui permet de représenter le monde divisé en deux, un monde espagnol et un monde portugais, un monde espagnol en violet, un monde portugais en vert jaune, et avec des limites qui définissent à chaque fois, qui sont liées à chaque fois aux négociations et aux conventions liées à un traité. Traité de Tordesillas 1494, vous voyez comment à ce moment-là l'empire espagnol se dote d'une influence grandissante extrêmement importante, en tout cas potentiellement en Amérique du Sud, et alors que les Portugais ont très peu de choses. Et puis inversement, traité de Saragosse 1529, où on voit là sans que les uns ni les autres ne connaissent véritablement les lieux, eh bien définissent par un méridien un partage du côté de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Donc il y a là une première étape de la mondialisation qui pour moi est très révélatrice de ce que va de l'évolution du monde à partir de cette époque. Possiblement, s'il vous plaît. Alors, on peut dire donc que à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, l'Europe naît, invente le monde et se présente comme le continent supérieur, celui qui découvre. Je m'explique. À partir des grandes conquêtes espagnoles et portugaises, ce sont des Européens qui, se partagent le monde. Donc, dans la conception de la mondialisation d'aujourd'hui, eh bien, ces Européens inventent, constituent un monde qui n'existait pas avant, par la découverte de ce monde. Et puisque ce sont les Européens qui découvrent ce monde, ils se considèrent comme ceux qui sont supérieurs à tous ceux qu'il découvre. L'Européen est le grand découvreur, et bien tous les peuples qu'il va rencontrer sont des peuples inférieurs, qui seront dominés par lui. Alors, il y a de nombreux atlas au XVIe siècle qui traduisent bien ça. Vous connaissez peut-être le nom de Mercator, qui est un grand cartographe du XVIe siècle, et qui en tout cas a laissé son nom à une projection, une projection cylindrique qui est utilisée dans beaucoup de planisphères aujourd'hui, vous voyez dans les salles de classe. Mercator est un grand cartographe de l'époque. J'en ai cité un autre qui s'appelle Ortelius et qui en 1595 publie un des premiers grands atlas du monde à cette époque. Et Ortelius, quand il a présenté sur l'espèce de ce qu'on appelle un frontispice, c'est-à-dire une décoration de son atlas, quand il a à présenter le monde, eh bien il présente le monde de la façon suivante. Il présente les continents sous la forme de femmes, ce sont toujours des figures féminines qui représentent les continents. Et l'Europe est sur un trône, la femme Europe est sur un trône dominant de très haut les autres continents d'autres femmes. Alors, la représentante de ce continent européen est une femme richement habillée, qui est sur un trône magnifique. Et puis les autres sont tout autour et bien en dessous. Par exemple, Asie, la femme qui représente l'Asie est richement aussi habillée, mais elle est très bas en dessous de l'Europe. Et puis alors, il y a des femmes qui sont d'une, je dirais, d'une simplicité, voire même qui représentent un caractère très primitif. Par exemple, la femme qui représente l'Afrique est alors là pratiquement dénudée. Et même, je dirais que la femme qui représente l'Amérique est une femme qui a l'air plutôt d'une sauvage. Ce qui était l'idée des premiers conquérants par rapport au peuple qui vivait en Amérique et qu'ils découvrent. Et quant à l'autre monde, le dernier monde, qui était celui encore peu découvert du côté de l'océan Indien, donc ces multiples îles, voire très très vastes comme l'Australie, alors ce continent, entre guillemets là, on le représentait par un buste, donc la femme était coupée, on ne voyait pratiquement que la tête de cette femme, considérant que vraiment là, il n'y avait pas grand chose à dire et qu'on était vraiment dans des lieux très reculés et très dominés par la découverte et la puissance de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est bien ça, l'Europe découvre les autres, se considère comme supérieur et en même temps se construit. C'est par la domination des autres et par cette représentation d'elle-même en tant que continent que l'Europe domine le monde et construit le monde au XVIe siècle. Et ça, donc, vous voyez, c'est vraiment une étape extrêmement importante pour penser aujourd'hui, les renversements, les bouleversements qui sont en cours. La deuxième étape de la mondialisation a lieu à la fin du XIXe siècle. De toute l'époque moderne, puis le début de l'époque contemporaine, ont permis donc, une domination affirmée de l'Europe, plus qu'encore au début du XVIe siècle. Et cette domination affirmée, elle se traduit par, d'abord évidemment, mais ça reprend ce qui était vu et déjà pensé par les Grecs. Donc vous voyez, il y a un renouvellement permanent de l'idée de continent, mais une reprise à chaque fois. Les Européens ont dénommé tous les continents et les ont définis tous, absolument tous. Alors on connaissait leurs limites plus ou moins, mais tous ont été, délimités par les Européens. Donc le monde des continents à la fin du XIXe siècle, c'est un monde qui est défini par les Européens. Je vous donne un exemple de nom. Simplement, par exemple, l'Amérique qu'on appelle latine aujourd'hui, ou Amérique du Sud, c'est un terme très banal. Eh bien, en fait, ce terme-là a été une invention de Napoléon Ier, qui a considéré qu'après tout, cette Amérique-là, elle était tellement influencée par la civilisation latine, qu'il était de bon ton, qu'il serait vraiment très intéressant de l'appeler latine. Donc, son nom est devenu Amérique latine. Donc, vous voyez, Amérique latine, Asie, Europe, Afrique, ce sont des noms qui parfois remontent à l'Antiquité, déjà pensés par des Européens, qui n'étaient pas encore, mais qui étaient des Grecs, et puis repris et développés dans différentes époques, eh bien, ces continents sont devenus les continents où on peut penser aujourd'hui qu'ils sont éternels, alors qu'en fait, ce sont des constructions humaines, des choix sociaux. Par exemple, je prends un autre exemple, l'Europe. Vous pouvez dire, mais l'Europe, c'est évidemment un continent évident. C'est un continent qui, bien sûr, a des limites qui sont incontournables, qu'on ne peut pas remettre en cause. En fait, c'est un choix. L'idée d'Europe en tant que continent avec des limites précises, qui, eh bien, elle remonte bien sûr à l'Antiquité dans la pensée générale, mais dans ses limites, il a fallu qu'un jour un cartographe d'un tsar de Russie, Pierre Ier, eh bien, sur les ordres de ce tsar, dise ben voilà, l'Europe se termine à l'Oural. Par conséquent, eh bien, l'Europe ira de Brest à l'Oural, et depuis ce temps-là, aucun homme politique européen n'a remis en cause l'idée que l'Europe se terminait à l'Oural. Alors que l'Oural, c'est une montagne qui n'est pas plus haute que le Jura. Je ne vois pas que le Jura puisse représenter une barrière infranchissable entre deux continents ou même entre deux États. Donc, voyez, on a fait de l'Oural une frontière de continent, une limite de continent, alors que c'est une montagne très moyenne et sans grande importance, de ce point de vue-là, largement habitée, développée par les Russes qui s'y sont installés. Le monde des continents est donc une invention européenne, les limites sont européennes, les noms qui ont été donnés, repris des Grecs, sont européens. Le monde des États, à la fin du XIXe siècle, c'est aussi un monde qui est défini par les Européens. Sur le modèle, vous le connaissez, le modèle qui a fondé l'État, au sens général du terme aujourd'hui, la plupart des États du monde, eh bien c'est le modèle de l'État-nation. le modèle de l'État-nation. Un peuple, une nation, un territoire, c'est le modèle développé par en Europe au XVIIe siècle. Eh bien, ce modèle va être diffusé par les Européens au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle. Alors, peut-être une... Je voulais montrer la diapo. Pas celle-là, un peu plus loin, s'il vous plaît. Encore. Alors, on va revenir en arrière, c'est peu importe. Excusez-moi. Encore. Encore. Voilà. Alors, ce monde défini par les Européens, voyez par exemple le cas africain. Le cas africain, ici, s'agit d'une carte, allemande de la fin du XIXe siècle, qui a ceci d'intéressant, c'est qu'elle définit selon les négociations et les accords du Congrès de Berlin, 1885, elle définit les territoires possédés par les grandes puissances européennes. Et alors qu'il y avait avant en Afrique, il y avait de grands empires africains qui ont vécu très longtemps, qui ont été très puissants eux-mêmes et qui n'étaient pas fondés sur les mêmes critères de découpage territoriaux, eh bien les Européens imposent le modèle de l'État-nation en Afrique, avec des nuances bien sûr, mais ils imposent ce modèle. Et donc ils vont se partager l'Afrique en essayant de se partager l'Afrique en fonction d'un certain nombre de connaissances des territoires et des populations qui s'y trouvent. Alors cette carte de l'Afrique est tout à fait intéressante parce que c'est une des premières cartes en couleur montrant à la fois des frontières entre des territoires possédés par les grandes puissances européennes. Chacune des frontières étant coloriée de la couleur représentant l'État en question. Par exemple, vous voyez au niveau du Congo belge qui se trouve ici, vous avez un trait bleu qui surligne la frontière, eh bien ce trait bleu est associé à la Belgique, qu'on ne voit pas tout à fait sur la carte, mais qui est représenté de la même façon. Bref, on a, avec les couleurs, essayé de fixer des liens très forts entre les États, en tout cas la puissance coloniale européenne, et puis les territoires africains possédés par cette puissance. Alors ça, c'est une carte qui est extrêmement révélatrice, hein, de la diffusion d'un modèle, de l'importance de l'Europe à la fin du XIXe siècle pour imposer ce modèle de l'État-nation dans les ensembles africains. Autre carte, c'est vous. Alors cette carte-là, c'est une caricature en fait. Vous la voyez peut-être pas très bien, et puis elle est en allemand, je vais vous traduire ça, je dirais, dans les grandes lignes. Il y est marqué « Que deviendrait le monde ?» Que deviendrait le monde si on lâchait la bride à tous les territoires que nous possédons? Et en fait, que voit-on sur cette carte? On voit des petits personnages qui représentent des Français en rouge, des Anglais en jaune, des Russes, un Russe en gris, ou un Américain qu'on voit moins bien. Prenons le cas du Français. Eh bien le Français, ce petit personnage rouge, vous voyez, il a comme une laisse, plusieurs laisses. Et quel est l'animal qu'il tient en laisse, évidemment? Le coq qui représente la France, et ce coq rouge, il a une taille variable en fonction de la taille de la possession territoriale dans telle ou telle partie du monde. Le coq rouge en Afrique est extrêmement développé, mais il y a aussi un coq rouge en Asie du Sud-Est, il y a des coqs rouges, un coq rouge dans l'océan Pacifique. Bref, on voit bien là le poids des images et des cartes pour symboliser la puissance européenne et la diffusion de ce modèle européen à la fin du XIXe siècle. Cette étape de la mondialisation, c'est donc une étape où l'image a un rôle pédagogique extrêmement fort, où la carte a un rôle pédagogique extrêmement fort, et tous, en fait, tous les Français à la fin du XIXe, au début du XXe, et une grande partie du XXe, tous les Français ont été marqués de génération en génération par cette idée de la France qui a une influence sur tous les continents, qui est extrêmement importante sur tous les continents, dans une Europe, vous le voyez bien sur la carte, une Europe qui est placée au cœur du monde. J'espère que vous vous rendez compte à quel point cette vision-là n'est pas du tout objective. Hein. C'est une vision strictement européenne du monde. Les Américains placent l'Amérique au cœur, juste dans l'axe central de la carte. Si on prenait une carte vue de l'Australie, eh bien l'Australie se placerait au cœur de la carte représentant le monde. Donc bref, dans cette vision européo-centrée du monde, l'Europe tient en laisse tous les territoires à la fin du XIXe siècle. C'est bien une remarquable représentation de la mondialisation, de cette deuxième étape de la mondialisation. Alors donc, le monde, avec un grand thème du XXe siècle, il a été complètement défini par les Européens. Alors j'en rappelle les éléments. La définition des États, on vient de voir, selon le modèle. La définition de la temporalité du monde. Le temps, pour les Européens, le temps des États-nations, c'est un temps qui est celui des économies supérieures, des puissances les plus développées, des sociétés les plus intéressantes, les plus importantes. Et puis, à côté des États-nations, il y a tous ceux qui ne sont pas encore États-nations, qui n'ont pas encore pu développer ce système politique et qui n'ont pas encore un système économique associé et qui sont en retard par rapport au modèle de l'État-nation. Donc le modèle de l'État-nation, stade avancé de l'histoire mondiale. La dénomination du monde, je n'insiste pas, j'ai parlé des noms des continents, vous voyez bien qu'ils sont tous dénommés par les Européens et depuis très longtemps. Simplement un mot pour vous dire que quand on a nommé le continent asiatique, quand on l'a nommé Asie, les Asiatiques eux-mêmes ne savaient pas qu'ils s'appelaient Asiatiques, hein, puisque les Européens avaient défini ce terme sans, je dirais, faire référence à une possible pensée des habitants de ce continent. Dénomination du monde, bien, évidemment aussi des noms d'États. Hein, la plupart des noms des États ont été définis par, non pas forcément par les habitants, la plupart du temps non, mais par les Européens. Il y a bien des États, par exemple, du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, qui n'ont pas été définis par les habitants, qui ne savaient pas qu'ils s'appelaient comme ça. Il y a quelques exceptions. Les Turcs savaient bien qu'ils étaient Turcs, les Iraniens et Perses, oui, mais en dehors de cela, la Jordanie, je dirais, est une invention complètement européenne, la Syrie aussi, et donc... voyez à quel point les Européens ont imposé une dénomination qui est extrêmement importante puisqu'elle est durable, elle est encore aujourd'hui valable. Dénomination des villes, alors là on passerait des heures et des heures à trouver des noms de capitales, de villes aux États-Unis et ailleurs dans le monde qui ont une origine, une racine qui se rattache à une ville européenne, hein, la Nouvelle-Orléans, etc., etc. Dimensionnement du monde. Le dimensionnement du monde, c'est la même chose. Les Européens, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, ont créé les unités de mesure permettant de définir le monde. Le mètre et toutes les unités associées sont des définitions européennes. C'est même pendant la Révolution française qu'on a commencé à définir le mètre en envoyant des astrologues dans des conditions extrêmement difficiles de l'Académie des sciences définir une unité de mesure du mètre fondée sur la mesure du méridien de Paris dans des conditions où, de guerre pour la France à cette époque. Je n'insiste pas, dimensionnement du monde et puis organisation du monde, là aussi ça peut vous paraître complètement évident, mais cette organisation actuelle qui est sans doute remise en cause au XXe siècle, elle était très récente. Organisation des transports par les voies ferrées. En particulier, chaque voie ferrée construite était une façon de créer des liens entre les États du monde. Par exemple, un exemple rapide, lorsqu'on a créé cette ligne de transport ferroviaire mythique, qui est la ligne Paris-Istanbul, alors peut-être que c'est pas pour vous quelque chose de mythique, mais pour les générations, les miennes, et au XXe siècle souvent, pour la plupart des gens, des Européens et en Français, et des Français en particulier, Paris-Istanbul en 3-4 jours de train, c'était vraiment une vision extraordinaire du monde, un lien tout à fait inouï que de pouvoir passer de l'Occident à l'Orient aussi vite par un train tout à fait extraordinaire. Eh bien, les transports ont été donc organisés par les grandes sociétés de transport européennes. Et puis les institutions européennes, internationales, c'est la même chose. Toutes les grandes institutions internationales aujourd'hui ont des origines qui remontent à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit tous les bureaux qui organisent, par exemple, les postes de télécommunication, que ce soit même les origines premières de tous les systèmes liés à l'ONU, par exemple, aujourd'hui, ont leurs origines à la fin du 19e siècle. Donc, le monde du 20e, un monde qui est, avec un grand M, c'est-à-dire un monde qui est de plus en plus unifié, où tout le monde peut reconnaître les autres, peut se déplacer facilement dans ce monde bouclé, eh bien ce monde est européen dans son invention. S'il vous plaît. Alors, le deuxième point, je renverse le petit « est », vous savez, l'Europe et la mondialisation, j'évoquais tout à l'heure le traitement. Là maintenant, ce n'est plus l'Europe qui crée la mondialisation et qui crée le monde, je le dis, c'est l'Union européenne face à la mondialisation. Donc le N n'est plus, n'a plus tout à fait le même sens. Alors d'abord un rappel, j'espère que vous ne ferez pas la bêtise de confondre Europe et Union européenne. Grave erreur, si vous faites ça déjà dans une copie de géo, ça serait extrêmement malvenu. Alors peut-être, bien sûr, y a-t-il l'envie pour les Européens de faire en sorte que l'Union européenne couvre l'ensemble de l'Europe, mais ça n'est pas le cas actuellement. Et il y a bien des projets qui tendraient à montrer qu'on pourrait dépasser le continent européen dans le projet de l'Union européenne. Donc l'Europe, c'est un continent, je vous ai dit qu'il fallait en penser, c'est un choix humain, une construction humaine, mais c'est un continent au sens actuel. L'Union européenne, c'est un ensemble spatial, territorial, avec un projet politique. Hein, extrêmement, on va le voir, un projet qui n'est pas forcément complètement pensé, mais qui existe, et puis, je dirais, une volonté de construire fondée sur la liberté, l'attractivité et la paix. Ça n'a rien à voir, donc, avec un continent comme l'Europe. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de l'Union européenne et non plus de l'Europe. Alors, quand même, les perspectives actuelles, avant de voir, pour mieux cerner la position de l'Europe, de l'Union européenne par rapport à la situation actuelle. La mondialisation aujourd'hui est une mondialisation, et au XXe siècle a été le cas, a été une mondialisation qui a été curieusement, et peut-être que là il y a des réflexions à mener, une interrogation à avoir, la mondialisation a fourni, a multiplié les frontières. On pourrait se dire, comme je le disais dans l'introduction, bah, mondialisation, ça veut dire village planétaire, fini les frontières, un monde extraordinaire, on peut se déplacer sans problème, potentiellement oui. Mais en réalité, le monde tel qu'il est aujourd'hui, et le monde du XXe siècle, a vu se multiplier les frontières. Par exemple, au début du XXe siècle, il y avait à peu près 40 États dans le monde. 40 États. Eh bien, à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, il y en a plus de 190. Plus de 190 États. On est passé de 40 à 190. Et tout le XXe siècle a vu se multiplier les frontières. Même la dernière étape, l'avant-dernière étape, pardon, de la mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation créant cette frontière terrible entre les deux blocs, Est et Ouest, ça a été la troisième étape de la mondialisation. Même cette dernière étape, lorsqu'elle a cessé, lorsque cette coupure Est-Ouest s'est effondrée, eh bien, n'a pas libéré le monde de toute frontière, pas du tout, pas du tout. Au contraire, elle a multiplié, occasionné, entraîné la multiplication de frontières. Le mur de Berlin, dont on a fêté la chute il n'y a pas longtemps, le mur de Berlin, c'est une image qui est largement fausse de l'évolution du monde. Le mur de Berlin a entraîné au contraire la multiplication des frontières en Europe et hors d'Europe. L'effondrement du mur correspond, je crois à peu près, je vous donne un ordre de grandeur, 15 000 km de nouvelles frontières créées. C'est pas la liberté qu'on pouvait penser, c'est pas la facilité de transport qu'on pouvait penser, pas du tout, c'est même l'inverse. Donc, nous sommes dans un monde au XXe siècle et bien sûr au début du XXIe siècle où il y a multiplication des frontières. Absolument multiplication. Alors ça peut paraître paradoxal. On peut se dire, mais comment se fait-il? Puisque, au contraire, la mondialisation, c'est la multiplication des échanges, la multiplication des moyens de transport, la multiplication des moyens de communication, Internet, etc. Pourquoi y aurait-il multiplication des frontières? Eh bien, il se trouve que le paradoxe est intéressant à soulever parce que la mondialisation s'accompagne d'une volonté de chaque État pour mieux contrôler son territoire. En fait, l'un va avec l'autre. Paradoxalement, la mondialisation s'accompagne de cette territorialisation des espaces nationaux. Donc chaque État du monde aujourd'hui tient, enfin chaque État, la plupart des États du monde aujourd'hui tiennent absolument à délimiter très précisément, démarquer très précisément leurs frontières. Par exemple, un État comme la Chine, immense, plus de 8 millions de kilomètres carrés, un État comme la Chine n'avait jamais démarqué ses frontières. C'est un coût considérable d'aller marquer, d'aller mettre des bornes sur des milliers et des milliers de kilomètres. Eh bien, la Chine, aujourd'hui, est en cours de matérialisation de sa frontière pour mieux contrôler son territoire. Sensible au fait qu'il y a des voisins qui aimeraient bien peut-être exploiter des ressources intéressantes aux confins ouest chinois, dans le Xinjiang, aux confins nord de la Mandchourie par exemple, eh bien les Chinois sont conscients de cet enjeu-là et par conséquent veulent absolument matérialiser leurs frontières. Et tous les États du monde, ou la plupart des États du monde, veulent le faire aussi. S'il vous plaît. Alors regardez j'aime bien cette caricature. Les caricatures comme les représentations sont pour moi extrêmement riches d'informations. Je l'ai trouvé dans un grand journal américain que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Washington Post, en 1992, juste à la fin ou en pleine guerre, marquant l'implosion de la Yougoslavie. Et voyez cette caricature, elle est tout à fait remarquable de la tendance actuelle dans le monde. Chaque peuple, chaque ethnie, cherche à se doter d'un territoire national, à construire son État-nation. Et en l'occurrence ici, la Yougoslavie, dont on pouvait penser que c'était un État fédéral, solide, etc., qui, donc, en quelques années, implose littéralement, eh bien, on voit que, progressivement, cette Yougoslavie ancienne devient d'abord quatre États différents, dont, aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine, dont je ne serai pas un grand devin si je vous dis que la Bosnie-Herzégovine telle qu'elle est aujourd'hui ne durera pas encore très longtemps. À son tour, elle va se partager. Et cette caricature, qui ressemble étrangement aux touches d'une machine à écrire ancienne, eh bien montre à quel point, de plus en plus, ce sont des confettis d'État qui se créent tant chaque peuple veut absolument son État. Hein? Donc les derniers États qui ne sont pas là, mais les derniers États qui se sont créés dans l'ex-Yougoslavie, il y a eu le Monténégro, et puis il y a eu, depuis le Monténégro, eh bien, il y a eu le Kosovo, qui est le tout dernier à s'être créé. On en est à des États qui ont la taille un peu plus à peine d'un département français. Donc, vous voyez jusqu'à quelle est la tendance actuelle dans le monde. On est bien dans cette tendance-là. Et donc c'est dans cette perspective-là que l'Europe inscrit un projet qui est radicalement différent. S'il vous plaît. Alors, les frontières de l'Europe... Et la quatrième étape de la mondialisation. L'Union européenne a été complètement transformée par la mondialisation de ce point de vue-là. Le bouillonnement des frontières, ce qu'on peut appeler le bouillonnement des frontières dans l'époque actuelle, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre froide, dans les années 89-90, jusqu'à nos jours, eh bien les frontières européennes changent, évoluent sans arrêt. On a eu un État qui s'est recréé, c'est l'Allemagne. Dans les années, en 1990, la RDA disparaît. On a eu des États qui se sont séparés, qui étaient uniques. Il y avait un État, la Tchécoslovaquie. Et en 92, eh bien, la Tchéquie se sépare de la Slovaquie, etc., etc. Donc, ce bouillonnement, il s'apparente à parfois une évolution très contradictoire des frontières. Mais cette évolution contradictoire, elle est associée évidemment aux perturbations même liées à la mondialisation. Donc, les frontières de l'Union européenne sont souvent beaucoup plus jeunes qu'on ne le pense, et l'Europe, en tant que projet construit de politique et économique, c'est une invention récente. Deuxième point, l'Union européenne. Alors, un espace-projet original. Bien, le projet européen de l'Union européenne va à l'encontre de ce que je viens de vous dire. Va à l'encontre de la multiplication des États, puisqu'au contraire, dans l'Union européenne, vous le savez bien, on tend à créer un espace unique. On tend à faire disparaître les frontières. Si vous allez en Belgique aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire d'aller en Belgique aujourd'hui, dans bien des secteurs, en tout cas du côté de Lille, on n'a même plus de traces de l'ancienne frontière. On n'a plus de traces. On a encore un parking ou deux, mais tout ce qui était construction liée à la douane, ces constructions disparaissent progressivement, et puis même la vitesse n'est pas ralentie. Avant, on passait à 50 à l'heure, on était attentif à ne pas passer trop vite. Maintenant, on peut passer à 90, voire bientôt à 100 à l'heure, 110, comme sur une autoroute habituelle. Donc, si vous voulez, l'Union européenne construit un ensemble unique alors que le monde est en train de se découper, de se territorialiser.
Alors,